Bon.
Alors, deuxième partie du séminaire donc, du 3 décembre avec Michel Sénécal, qui est professeur à la Téléuniversité à l'UQAM. Et Michel va intervenir. Alors, finalement, on y était déjà tout à l'heure, hein, et on va poursuivre. Pensée critique, idéologie et construction théorique. Je pense que c'est dans la droite lignée de la fin du débat de l'intervention précédente.
Merci. Ben, merci d'être là encore à 3h20, vendredi, où tout le monde, effectivement, aurait d'autres obligations assez rapidement après la fin de la séance. Écoutez, pensée critique, idéologie et construction théorique, déjà, Omar a mis la table d'une belle façon. Dans le cadre du séminaire aujourd'hui, il m'a semblé pertinent, en fait, de revenir sur les traces laissées par le sociologue critique, en fait, sociologue critique Marcel Rioux, qui est décédé en 92, je présenterai tantôt, et à voir, effectivement, j'utilise le mot l'articulation qui peut être faite entre la sociologie critique et le développement d'une pensée dialectique. Donc, pas nécessairement pensée critique, mais pensée dialectique. Donc, et de son application possible dans l'analyse des systèmes de communication. Et c'est un peu la proposition que je ferai rapidement à la toute fin, que cette application d'une pensée dialectique, en fait, quelques suggestions, quelques pistes. Bon, évidemment, je donnerai ici rapidement le plan de ma présentation. Donc, revisiter la sociologie critique de Marcel Rioux. Comment Gurwitch concevait-il la dialectique? Et c'est intéressant de comprendre que Marcel Rioux, en 56-58, a suivi les cours de Georges Gurwitch à Paris. Donc, une filiation tout à fait intéressante. Ensuite, évidemment, dialectique et sociologie critique. Que retenir la pensée dialectique? Pourquoi donc une approche dialectique? Et la dialectique, une réponse à la complexité. J'allais même reprendre éventuellement la dialectique, peut-être casser des briques, selon le fameux premier film de détournement là, d'un film de Kung Fu par les situationnistes avec Vienne. Donc, ce que je me suis abstenu de faire, mais que je vous le mentionne tout de même. Or, ici, en fait, le premier point, revisiter la sociologie de Marcel Rioux. Marcel Rioux, en fait, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bon, il est né en 1919, mort en 1992. Il a enseigné la sociologie à l'Université de Montréal jusqu'en 84, puis il devient professeur émérite en 85. Il a reçu le prix du Québec en 78. Et c'est tout à fait intéressant de la manière qu'on présentait cet intellectuel qui a inspiré plusieurs générations d'étudiants en proposant, entre autres, d'associer l'action à la théorie. Et c'est tout à fait intéressant qu'on puisse, pour un sociologue, dire « voilà un des traits marquants du personnage ». Son discours est radical, il est ouvertement agnostique, et ça, il faut comprendre que pendant longtemps, à l'Université de Montréal, on est dirigé par des monseigneurs, hein, et que finalement, quiconque est agnostique, quiconque est athée, évidemment, n'a pas droit de citer, avant même de se dire marxiste, là. Hein, donc, il faut comprendre aussi l'époque dans laquelle Marcel Rioux va intervenir. Donc, il convie les Québécois à créer de toutes pièces une société égalitaire autogérée. Et puis, le mot autogestion va revenir énormément dans le discours, en fait, dans la pensée de Rioux. Alors, donc, il y a qui s'appelle « Essai de sociologie critique », paru en 78, où il tente de conjuguer, et ça, c'est un ouvrage vraiment charnière, son approche théorique et sa propre pratique, en fait, en se disant lui-même sociologue politiquement engagé. Et je crois que, finalement, c'est au cœur, vraiment, de nos préoccupations ici, c'est comment faire en sorte qu'une approche théorique se conjuguant avec une pratique politiquement engagé, donc un engagement politique. Selon Duchâtel, puis je vous réfère à cet excellent, c'est pas une biographie, mais c'est une revue de son parcours, Marcel Rioux entre l'utopie et la raison, et je crois que le titre et le sous-titre est vraiment très, très intéressant, parce qu'il reflète bien la préoccupation, cette dialectique entre justement la raison et cette quête idéaliste ou utopique là, qu'anime Rioux. Donc, il dit que finalement, pourtant précurseur dans l'enseignement marxiste à l'université, Rioux finalement devient de plus en plus critique au cours des années 70 de la manière que le marxisme va s'imposer et comment il va être enseigné et comment qu'on va se l'approprier. Alors, donc, on parlait éventuellement de certaines dérives. Il est déjà à l'affût de ces dérives-là et les dénonçant. On va revenir là-dessus. Donc, il éprouve le besoin de réconcilier ses propres orientations avec une position épistémologique concordante, mais aussi, sur le plan politique, il est en quête d'un projet en accord avec les analyses qu'il fait lui-même de la société contemporaine. Donc, on y retrouve une théorie sociologique de l'émancipation, ça c'est tout à fait clair, et surtout la mise en valeur de ce que le sociologue a appelé les possibles. Les possibles. Et d'ailleurs, c'est lui, avec Roland Giguère, Gérald Godin, Gilles Hénault, Gaston Miron, Gabriel Gagnon, et vous comprendrez que ce sont des intellectuels, des gens, des écrivains, et finalement des gens suffisamment impliqués dans la société québécoise. C'est avec ces gens-là qu'ils vont créer finalement la revue Possible en 76. Donc, c'est pour vous situer le personnage. Et Marcel Rioux, effectivement, il était vraiment de plusieurs tribunes. Malheureusement, avec la mort de ces personnages, de ces figures intellectuelles, meurt aussi de toute une pensée et une dynamique d'action qui est impulsée à une société. Et malheureusement, effectivement, on peut comprendre que dans les années 80-90, ce type de pensée, ce type de préoccupation va s'étioler, s'épuiser éventuellement, et c'est un peu le constat dont on faisait d'une manière ou d'une autre tantôt. Alors donc, pour bien comprendre finalement cette étape charnière que constitue finalement l'essai de sociologie critique, Duchâtel, dans le deuxième ouvrage qui est référé ici, nous dit d'aller voir un article publié en 1969. Ça, c'est intéressant parce que, retournez 10 ans auparavant, allez voir qu'est-ce qui commence à préoccuper Marcel Rioux. Ah, donc, et le titre est tout à fait éloquent. Cet article-là, dans Sociologie et Société, paru en 69, c'est Remarques sur la sociologie critique et la sociologie aseptique. Alors donc, finalement, rapidement, ce que Rioux va expliquer, sociologie critique et aseptique, en fait, il dit que l'histoire de la sociologie est marquée par deux grands courants. Donc, c'est sociologie critique, puis dont le représentant emblématique, évidemment, on en a parlé tantôt, est Karl Marx, et d'autre part, la sociologie aseptique. Et courant qui va associer à la figure de Max Weber. Donc, on peut toujours relativiser ça, mais il reste quand même que, en faisant cette distinction-là, Rioux va écrire à propos de la sociologie critique que les sociologues non seulement veulent connaître objectivement la réalité sociale, mais se préoccupent des finalités sociales et ne font pas faute d'entremêler jugement d'existence et jugement de valeur. Or, et donc, ici, ce qui est intéressant, il donne une définition de ce qui est aseptique. Aseptique, qui vient d'aseptie, et que le Larousse définit ainsi, ensemble des métaphores permettant de protéger l'organisme contre tout apport microbien, en particulier d'opérer à l'abri des microbes. Dans ce contexte-ci, les microbes, ce sont les valeurs et les jugements de valeurs. Alors donc, c'est tout à fait intéressant qu'il se positionne par rapport à un organisme, on peut entendre ici un système, on peut entendre ici système capitaliste, et que toute autre forme, finalement, de sociologie autre que critique serait aseptique, à savoir ne désignant pas ses finalités particulières au point de départ. Alors, évidemment, selon Rioux, le marxisme a d'abord le mérite, et ça, comme sociologie critique, d'introduire la méthode dialectique en sociologie, de se définir autour de la notion de praxis, qui signifie action, production, travail, lutte, création, d'être une sociologie de la liberté, c'est-à-dire celle du dépassement des aliénations et des déterminismes sociaux. Donc, lui, il voit déjà dans le marxisme cette possibilité d'émancipation, de dépassement. Donc, Marx n'introduit pas de dualisme entre les faits et valeurs. La notion de praxis, au contraire, une théorie pratique ne lui permet pas de séparer existence et conscience, faits et valeurs. D'ailleurs, Rioux rejoint en cela Lucien Goldman quand il disait que Marx ne mêle pas comme tel des jugements de valeurs et de faits, mais développe une analyse dialectique dans laquelle explication, compréhension, valorisation sont rigoureusement inséparables. Du côté de, je vais vite en besogne, hein, mais disons que vous allez comprendre au fur et à mesure où je vais en venir. Pour Rioux, la sociologie aseptique, il la caractérise comme ahistorique, analytique, fonctionnelle, théoriquement aseptique et conformiste, en fait. Weber est jugé, selon son modèle de dualité, est jugé relativiste, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas de critères transculturels pour juger du progrès social, ou ouvrant ainsi la porte au fonctionnalisme en sociologie et au relativisme culturel. Enfin, on fait un pont direct avec ce dont on mentionnait tantôt. Alors, les valeurs sont essentiellement, pour Weber, entendons, les valeurs sont essentiellement subjectives, individuelles et irrationnelles, et en vertu de cette prémisse, la sociologie weberienne optera pour une sociologie exempte de valeurs. Mais en se disant exempte de valeurs, on a déjà une position idéologique, il va de soi, on s'entend. La sociologie américaine, notamment, suivant ce modèle, est définie comme une value-free sociology, ce qui veut dire, pour Ryu, une sociologie alignée en fait sur les valeurs dominantes qui ne sont pas avouées comme telles. Et c'est ça qui est un des éléments importants à retenir, non avoué comme tel. Mais finalement, le nœud de la question se trouve pour Ryu dans l'attitude de Weber, donc face à la question des valeurs. Et ça, moi, je pense que c'est un des éléments à retenir lorsqu'il critique la sociologie aseptique. Ryu propose, au contraire, une sociologie critique intégrant le problème des valeurs plutôt que d'en nier l'existence. Donc, plutôt que de dire « il n'y a pas de valeur », on va dire « oui, les valeurs, elles sont là au contraire » et qu'il faut réintroduire la question du développement et des idéologies. Alors, cette question implique évidemment le rejet de la position de Weber sur la subjectivité des valeurs et le dépassement du dualisme fait-valeur. Et la position critique nous amène ainsi à considérer les faits et les valeurs comme deux éléments permanents de tout le mouvement de la société humaine. Et lorsque, effectivement, on parle d'idéologie, on va se référer à des valeurs, des intérêts, à des projets développés par les acteurs sociaux. Ah, donc, il rajoute ici que ces valeurs ne sont pas celles du sociologue ni des sociologues, mais celles des collectivités qui affirment leur finalité sociale, la création de leurs valeurs, de leur liberté. Donc, il y a une notion de quasiment d'idéaux en termes comme on nous parle, de dépassement, d'affranchissement, d'émancipation. Dans la notion de développement, il y a du positif et du normatif. Du positif dans son aspect d'adaptation à la réalité, de mécanismes et de techniques pour provoquer la mise en route et le maintien de la croissance, mais aussi du normatif en ce sens que les collectivités y inscrivent certaines finalités, certaines valeurs. Dans la réalité, les deux phénomènes sont en constante interaction. Et ça, je crois qu'on voit déjà la pensée dialectique de Ryu dans la manière de, à la fois, combiner ici faits et valeurs, mais c'est surtout la question aussi comment lier théorie et pratique qui est au cœur de sa préoccupation. Alors donc, il va prendre progressivement, comme je l'avais dit au départ, mais plutôt que je vais peut-être, oui c'est ça, j'ai oublié peut-être cette mention, parce que c'était la suite de la citation, que finalement l'idéologie, parce qu'il réhabilite, en fait il pas qu'il réhabilite, mais il met au cœur de sa préoccupation, l'idéologie comme présente le même visage. Si l'idéologie est la définition de la situation pour un groupe social en vue de l'action, elle doit pour une part s'adapter à la réalité pour la serrer de près, et en même temps elle reflète le projet d'exister collectif du groupe, c'est-à-dire les fins et les valeurs qu'il veut réaliser. Donc, fin et valeur qui doit être réalisée sont partie prenante de l'idéologie. Et dans ce cas-ci, évidemment, elles sont avouées, alors que finalement, pour d'autres acteurs qui se disent aïdologiques, ils sont non avoués. Si on peut faire un parallèle rapide. Alors donc, la critique de Ryu par rapport au marxisme et une certaine incapacité finalement à aborder certains phénomènes, en fait, c'est qu'il considère en fait que les observations sociologiques de la sociologie critique marxiste, sont relativement datées. Ces observations sont relativement datées et qui doivent être critiquées. En fait, le marxisme doit être critiqué avec la grille critique que lui-même a mise en place. Donc, c'est bien de critiquer à l'externe, mais encore faut-il appliquer à soi-même la même préoccupation critique. Donc, et on pourrait dire ça du côté de l'économie politique ou des cultural studies, comme on a vu tantôt, ou toute autre théorie comme telle. Alors, il va expliquer, grosso modo, pourquoi il appuie, sa critique est amorcée par rapport au marxisme, c'est-à-dire c'est d'abord en essayant de rendre compte théoriquement de l'apparition d'une nouvelle culture. Donc, on parle des années 70, là, d'abord chez les jeunes et dans d'autres couches de la population, c'est-à-dire de nouvelles conduites, de nouvelles valeurs et attitudes, de ce qu'on a appelé aussi une nouvelle sensibilité. Qu'il m'est apparu, à tort ou à raison, que les sociologies traditionnelles n'expliquaient pas par ce phénomène d'une façon satisfaisante. Et tantôt, je disais que, je rajoutais que Yves Delahaye avait une quatrième logique, en fait, la logique d'État, logique du capital, logique du mouvement, des mouvements sociaux et culturels, et il avait rajouté une quatrième, c'était celle de... je dirais pas d'une nouvelle sensibilité, mais d'une nouvelle sociabilité qui voyait comme en émergence. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que c'est pas nécessairement prémonitoire, mais il reste quand même qu'on voit bien aussi que dans les années 90 et les années subséquentes, va émerger d'autres manières d'entrevoir le politique, d'entrevoir l'action politique, d'entrevoir finalement de nouvelles subjectivités et surtout des subjectivités en accord avec des actions collectives. Donc, une nouvelle dialectique de ces différentes dimensions. Donc, Griot va critiquer l'analyse de Marx qui est trop influencée par les notions de rareté, de travail, de production, de domination. Évidemment, on est toujours dans les modes de rapport de production, au détriment de l'autre aspect de l'homme qui concerne davantage son activité symbolique. Alors donc, maintenant, suite à ce que nous disait Oumar, c'est sûr qu'il y a eu des cultural studies. On peut penser que pour le Québec, en fait, si Rioux avait vécu un peu plus longtemps, on aurait peut-être vu quelqu'un qui aurait été sensible à tout le courant du matérialisme culturel. En fait, il l'est un peu, sans l'avouer, sans le savoir, du côté du matérialisme culturel. Et en cela, certaines préoccupations rejoignent celles de ce qu'on évoquait tantôt, de Williams et autres. Alors, ce qui n'est pas discuté chez Marx, dit Rioux, c'est la relation des deux dimensions de l'activité de l'homme, production et communication symbolique. Peut-on, sans discussion, faire de la production de l'activité instrumentale la fin de la société et faire de l'activité symbolique un reflet d'activité de production? Donc, encore une fois, vous voyez la pensée dialectique complète de Rioux. Donc, la dialectique, ce n'est pas quelque chose qui est complètement abstrait, mais qui est complètement incarné dans sa manière de réfléchir les problématiques, et même son écriture, elle l'est. Il va distinguer ici, trois approches, du social. Parler de l'approche positiviste qui peut englober à certains égards certaines formes ou certaines interprétations du marxisme, parce qu'il tente d'expliquer le réel à travers un système de causalité. L'approche herméneutique qui accorde la primauté à la théorie sur la pratique et l'approche critique qui vise à identifier des pratiques émancipatoires. Ah donc, la sociologie critique prend le parti de soutenir que tout un pan important du social historique n'est pas analysable selon les canons de la science positive et que par conséquent, celle-ci ne peut pas s'arroger le droit de décréter qu'elle est la seule et unique démarche possible pour l'étudier. Alors donc, ici, effectivement, on est contre, effectivement, la primauté de la théorie sur la pratique. Au contraire, on veut insuffler une dialectique de l'un et l'autre. Évidemment, l'approche critique, oui, pour éventuellement parler de domination, mais aussi d'émancipation possible. Et ça, je crois que c'est un apport important de Rioux. Donc, le sociologue critique rétablit l'importance de la pratique par rapport à la théorie, je disais, doit s'intéresser tout autant à la création de l'autre type de société, à la société qui se fait, qu'à la critique de la société existante. Et ça, je pense que quand tantôt, on avait commencé à mettre un peu la table à cette réflexion sur ce qui est et ce qui doit. Dans cette optique, l'importance des phénomènes culturels est restaurée, donc c'est la prétention et c'est le souhait, évidemment, de Rioux. Donc, la tâche de l'essai une des tâches de l'essai qui mettait de l'avant, c'était de tenter d'asseoir théoriquement le point de vue émancipatoire, de distinguer dans la question de la relation entre théorie et pratique une position du point de vue émancipatoire qui soit distincte de ceux de la science positive et de l'herméneutique. Donc, sans nécessairement y arriver totalement, si vous allez voir le bouquin, vous allez comprendre que c'est une tentative de décloisonner finalement la pensée marxiste de son économisme pur, comme on aura eu tendance à l'interpréter. Et évidemment, dans les dernières lignes de son essai, il dit « S'il est une certitude qui surnage », je l'ai mis ici pour Éric, c'est qu'aujourd'hui, les hommes sont condamnés à inventer leur avenir, que le temps n'est plus aux ceux qui critiquaient l'ordre établi, que la solution de rechange existait toute faite dans les traités de maîtres-penseurs. Et ça, évidemment, la solution n'est pas nécessairement intégrée dans la critique elle-même. Elle est à découvrir, elle est tout à fait à créer. Et Rioux se veut résolument un optimiste. Puis je pense que c'est une position, sans être jovialiste, je pense qu'il y a une position d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a comme une sorte de, pas de rupture, mais de très grand désaccord avec Weber, parce que Weber est foncièrement pour lui pessimiste. Alors que Durkheim et d'autres de la sociologie française représentent davantage une ouverture sur la création de possibles. Donc, cherche finalement Rioux les groupes qui sont porteurs de projets d'émancipation, c'est-à-dire qui luttent pour l'abolition de l'exploitation, l'aliénation et la domination. Donc, il y a vraiment cette combinaison des deux. Donc, ces projets émancipatoires ne peuvent toutefois être qu'imaginés. Ce sont des projets de société qui visent à retotaliser, reglobaliser ce qui a été séparé dans le monde de production capitaliste. Alors, évidemment, je vais vite, là, je vais très vite pour arriver à vous dire tout ce que je veux vous dire, mais pour dire que finalement, la théorie critique de Marcel Rioux, et ça je l'évoquais tantôt, s'appuie à la fois sur la critique, donc relever les contradictions du capitalisme, donc les pointer en termes de comme d'exploitation, d'aliénation, de domination, ça c'est une préoccupation de la sociologie critique, mais en dialectisant avec la création de possibles, donc de pratiques émancipatoires, de résistance, de rupture, etc. Et évidemment, même par rapport à l'économie politique, on peut dire que Rioux était relativement critique d'économie politique, qui s'enfermerait essentiellement dans une forme de critique pure des processus, c'est-à-dire critiquer les contradictions, critiquer la concentration, critiquer la domination, mais sans chercher justement pas des solutions, mais plutôt à des transformations possibles. Alors, c'est pour ça que finalement, lorsqu'ils ont parti la revue en 1976, c'était la revue possible, c'était pour mettre en exergue, pour valoriser, si on peut dire, un certain nombre de projets émancipatoires, mais il reste quand même que, en les cadrant au niveau théorique, en les critiquant éventuellement. Donc, c'est appliquer aussi la critique à la création. Donc, création de la critique, mais critique de la création, si on pouvait jouer à la Bourdieu avec ces termes-là. Alors, évidemment, je vais passer très rapidement à Gurwitch, parce qu'il me semblait que la filiation entre Gurwitch et Rioux est intéressante, et ça nous permettait de changer aussi de continent. Parce qu'en fait, Gurwitch, à l'époque, a été un des professeurs les plus influents chez lui. Et en fait, c'était un des seuls théoriciens marxistes avec lesquels il a pu être en contact à l'école des autres études, je crois. Et donc, évidemment, un de ses enseignements, c'était justement la dialectique, la critique des concepts d'idéologie de classe sociale, puis de le marxisme en général. Puis effectivement, on reconnaît à Gurvitch quand même un certain nombre de réflexions pertinentes sur ces questions-là et sur ces concepts-là. Alors, rapidement, Gurvitch, dialectique et sociologie, il y a quatre principes sur lesquels il s'appuie. Toute dialectique, qu'il s'agisse du mouvement réel, de la méthode, vise à la fois des ensembles et le réellement constitutif. La dialectique nie toute abstraction qui ne tiendrait pas compte de son propre artifice et ne conduirait pas vers le concret. La dialectique prise sur tous ses aspects est un ébranlement de toute stabilisation apparente dans la réalité sociale ainsi que dans toute connaissance où elle détruit toute forme cristallisée. Et enfin, la dialectique est d'une part la manifestation, d'autre part la mise en relief des tensions, des oppositions, des conflits, des luttes, des contraintes, des contradictoires, qui ne sont nullement identiques, des contradictoires seules méritant d'être désignées comme antinomie ou polarité. Hein, pour lui, les contradictoires absolues, hein, c'est la lumière du jour, l'obscurité, c'est la lumière, etc. C'est des antinomies absolument pures, des extrêmes, si on peut dire, alors que toutes les tensions, oppositions, conflits et tout, en fait, s'interpénètrent éventuellement, s'influencent, s'interinfluencent, etc. La dialectique est la manifestation, la mise en relief du fait que ces éléments de même ensemble se conditionnent réciproquement, voilà, et qu'à l'exception des antinomies proprement dites, la plupart des manifestations conflictuelles, en fait, qu'on voit comme conflictuelles, peuvent aussi bien s'interpénétrer à différents degrés que se combattre avec plus ou moins d'intensité. Et c'est tout à fait intéressant parce que je relisais les ouvrages de Norbert Elias, qui est un sociologue français, où justement, il parle, lui, de chaîne d'interdépendance. Donc, cette idée d'interdépendance entre différentes unités, catégories, et ça pourrait se rejoindre ici la définition de Gurvitch. Donc, dialectique et sociologie critique, en fait, l'approche critique, dialectique est paradigmatique de la sociologie critique. En fait, on peut l'avoir vu rapidement avec Rioux, car l'appréhension des phénomènes nous révèle vite leur interdépendance, leur conditionnement réciproque, évitant les découpages de la réalité en domaines réservés et autonomes, et permettant de faire ressortir l'interférence, les rapports réciproques d'un phénomène par rapport à l'ensemble social. On pourrait même dire que une des barrières, finalement, à la capacité de développer une pensée dialectique aurait été le découpage disciplinaire, par exemple. Hein? Alors que, originellement, les disciplines n'existant pas, on pouvait penser à faire interagir, ou du moins de créer cette réciprocité-là d'une manière beaucoup plus naturelle, si on pourrait dire, parce que non enfermée dans des silos, si on peut dire. Cela rejoint aussi l'idée de l'unité de la théorie de la pratique comme un tout indissociable. Le « est », le « doit », l'analytique et le normatif sont réunis, tel que le définit le projet de la sociologie critique, et Rioux en était un bon exemple. Donc, Marcel Rioux, pour ne pas confiner la théorie à un rôle instrumental, il faut la concevoir dans ses justes limites et perspectives de mise en application de ce fait, consciente des modèles qu'elle met en place pour interpréter la réalité. Et ça, c'est une de mes citations phares, si on peut dire, et ça nous ramène toujours à l'humilité, si on peut dire, à la modestie qu'on peut avoir par rapport à l'interprétation du réel, c'est en disant « la théorie ne fait qu'élucider les mouvements du social historique, la théorie ne pouvant ni édicter des lois, ni prévoir l'avenir. La tâche est beaucoup plus difficile, puisque la vérité n'est pas révélée par la théorie et ensuite appliquée au réel. C'est le réel, au contraire, qui nourrit la théorie, ce qui oblige l'analyse à déceler dans la réalité des mouvements, conduite des groupes qui se sont porteurs de nouveautés et d'émancipation, ce qui oblige à expliciter les valeurs qui sont privilégiées. » Donc, encore là, Rioux insiste sur le point de vue de la critique de la sociologie, mais d'une sociologie critique, sociologie de la critique elle-même, on pourrait dire. Donc, la critique de la théorie devrait, par définition, être réintégrée à la théorie critique, évoluant elle-même dialectiquement en regard des mouvements réels. La théorie critique visant avant tout la transformation du monde par la révélation de ses contradictions, on l'a dit, de même processus devrait donc s'appliquer à la théorie en elle-même. Donc, lorsqu'on parlait d'une théorie qui cherche à comprendre le réel, ou du moins à l'interpréter, ou à l'expliquer, il est évident que la critique doit être appliquée également au courant eux-mêmes théoriques. Donc, la recherche, elle revêt ainsi un caractère idéologique indéniable, hein, le positionnement des chercheurs, évidemment, en faisant foi, parce que dans les faits, les chercheurs sont aussi des acteurs sociaux, sont impliqués dans des rapports sociaux, des rapports de force qui peuvent être institutionnels, qui peuvent être idéologiques, qui peuvent être disciplinaires, et etc., etc., etc. Donc, vous, étant prof d'université pour la plupart, chercheurs ou impliqués dans des domaines disciplinaires, on comprend ce que ça veut dire. Bon, donc la dialectique participerait de la réalité elle-même, elle installera en soi son projet heuristique, faisant partie prenante du modèle d'interprétation. Donc, il faut chercher à davantage comprendre la réalité sociale dans sa mouvance et épuisement historique et contextuel, plutôt que de l'enfermer dans des fixations déterministes. Prendre en compte l'imbrication ou la transparence de l'une à l'autre des différentes dimensions de la réalité sociale, où s'exercent simultanément et concurremment des rapports de force entre les acteurs sociaux en termes d'exploitation, de domination, aliénation, mais aussi en termes de critique, de résistance et d'émancipation. En fait, ce qu'il avait bien compris Gramsci avec sa dialectique du pouvoir et de contre-pouvoir. Donc, un n'existe pas sans l'autre, et donc ça rejoint un peu ce que je disais tantôt à propos de la pensée de Norbert Elias, à savoir cette interdépendance de l'un et l'autre. Alors, et maintenir une séparation entre ces différents processus, comme entre les secteurs de la réalité, il reste de mener à des analyses unilatérales, mécaniques, déterministes, puis finalement, on a critiqué l'économisme, le culturalisme, le technologisme, maintenant, parfois, on critique à défaut aussi le sociologisme, en fait, etc., etc. Mais je crois qu'effectivement, le fait de s'enfermer, donc une approche en silo, n'est pas nécessairement préférable pour comprendre la complexité actuelle du monde. Donc, rapidement, parce que c'est un peu que retenir de la pensée dialectique dans l'optique où on va travailler sur des problématiques de communication. Donc, la nécessité de relever dans le champ des communications les enjeux, les contradictions, y compris les alliances possibles qui lui sont itinérantes. Or, on parlait tantôt des grands acteurs sociaux, l'État, le capital, les mouvements sociaux, etc. Mais on peut comprendre que à certains moments, dans cette terme période, il existe des rapports conflictuels, mais aussi d'alliances entre ces différents acteurs et qui ne sont pas à première vue décelables, mais dont la recherche des dialectiques, des intérêts, des valeurs que chacun va mettre de l'avant. Je donnerai un exemple de ça parce que quelqu'un me posait des exemples, me demandait des exemples tantôt. Lorsqu'il y a eu à la fin des années 70 et début des années 80 en France, tout le mouvement des radios libres. Les radios libres, c'était d'une part sur la même barricade des groupements associatifs, libertaires et autres politiques qui côtoyaient finalement des entreprises privées et qui voulaient développer, ils voulaient libéraliser finalement les ondes face au monopole public. Donc on voyait que objectivement, on avait des groupes qui s'alliaient contre le monopole des toits, mais qui avaient des valeurs, hein, des projets, des intérêts intrinsèquement, fondamentalement, idéologiquement aux extrêmes. Alors donc, c'est un exemple, on en retrouve nombreux comme ça. Au contraire, il faut rendre la complexité des enjeux, des réels et des stratégies des acteurs sociaux en présence, donc tantôt en rapport de conflit, d'alliance. Paradoxalement, on peut coexister dans une même pratique sociale une logique conflictuelle et consensuelle. Et on voit là, que d'un côté, on est en conflit avec un autre acteur, mais éventuellement, on peut être objectivement en complémentarité, si vous voulez dire, ou bien en alliance. Or, en d'autres mots, il faut reconnaître comme égal l'inséparabilité des contradictions. Puis ça, effectivement, depuis le début, je crois que ça fait sens. Les apports de l'approche dialectique peuvent se circonscrire dans la multiplication des points de vue, notamment des facteurs possibles de conditionnement. Et ça, je sais. Donc, ici, pourquoi une approche dialectique, et on va vers la conclusion de ma présentation, éviter de verser dans une quelconque forme de surdétermination d'une dimension sur l'autre, ni ne favoriser qu'une seule voie d'interprétation, prendre en compte dans un même mouvement les pratiques de communication dans le contexte socio-historique et géopolitique, donc aussi bien voir le local, donc le micro, qu'international, le macro, donc ces différentes dimensions. Souvent, on en a parlé ici en disant, ah oui, c'est une vision un peu trop micro ou trop macro, mais comment est-il possible d'avoir cette dialectique entre différents aspects, différents niveaux d'interprétation, tout en cherchant à comprendre la dynamique des phénomènes analysés en fonction d'une pluralité de dimensions et de variables. Or, juridique, réglementaire, économique, politique, technologique, culturel, éthique. Et malheureusement, les historiens vont dire à nous l'histoire, les gens qui travaillent sur les aspects réglementaires vont dire à nous les règlements, les aspects juridiques, les gens qui travaillent en économie vont dire à nous l'économie, les gens qui sont du côté plus de la culture vont dire ah sinon c'est notre terrain privilégié, etc. Les technologies, vous connaissez rien. Alors que finalement, on devrait être en mesure, un tant soit peu, je ne sais pas si l'interdisciplinarité peut régler cette problématique-là, mais c'est certain qu'il faut, à défaut de tenir compte de toutes ces dimensions, savoir qu'elles existent et qu'elles s'interfèrent et qu'elles sont éventuellement interdépendantes de l'une ou l'autre. On ne peut pas parler d'économie, des communications au Canada, sans parler de la réglementation. Et étrangement, on retrouve des ouvrages où on ne parle jamais de réglementation. Donc, vous voyez, c'est un autre exemple à donner. Donc, retracer les valeurs, les intérêts, les projets que les acteurs sociaux mettent de l'avant dans le développement de leur vision du monde, de la conception et de la communication. Et je dirais, un peu dans la voie de Rioux, oui, d'accord pour les projets d'émancipation, mais aussi à rebours, dire oui, allons regarder chez les autres acteurs, pas seulement ceux qui avouent complètement leurs intérêts, leurs valeurs et leurs projets, leur vision du monde, mais allons voir comme en contre-jour, allons voir les autres acteurs et leurs valeurs, leurs intérêts, leurs projets, leur vision du monde leur conception de la communication. Parce que ces valeurs, intérêts, projets sont naturalisés dans des systèmes qui sont comme donnés et pour lesquels, finalement, on a même de la difficulté à se dégager ou à défaut de pouvoir complètement s'en détacher, malgré la critique qu'on peut en faire. Donc, serait-il possible de développer une approche dialectique permettant, dans une perspective évolutive et intégrée, de tenir compte de dimensions qui, au contraire d'être opposées, sont constitutives les unes des autres? Donc, le macro et le micro, en fait, l'un existe parce que l'autre existe. Le sujet, le contexte, l'individu et le collectif. Encore là, un individu, on parle d'individu parce que le collectif existe, parce qu'on ne parlerait pas et de la même façon d'un collectif, d'un ensemble d'individus. C'est encore là, c'est un peu tautologique ce que je dis, mais il reste quand même que ce sont des évidences qu'on a tendance à cliver. L'unicité, la diversité, phénomène technique, phénomène de société, théorie pratique, connexion et action, temps long et temps court. Donc, juste tout le débat au niveau de l'histoire. Chez l'historien, c'est tout un grand débat. Même les historiens parlent maintenant du temps court ou du présentisme. Tout est au niveau du présent, sans ancrage dans le passé, comme si, finalement, la technologie, les institutions que nous avons n'étaient pas un résultat, n'étaient pas une production historique. Historique. La géopolitique locale internationale, rupture, continuité, structure et conjoncture, et je pourrais dire, à l'instar de, je pourrais l'ajouter ici, entre la critique et la création, pour reprendre une dialectique fondamentale de la pensée de Rioux. Donc, ce que je propose, en fait, c'est déjà quelques éléments de réflexion, développer une compréhension globale intégrative de la complexité des phénomènes, notamment médiatiques, mais sociaux également, basée à la fois sur une approche transversale, multidimensionnelle et métamédiatique, parce qu'on a tendance à travailler essentiellement sur des technologies en particulier, alors que l'articulation entre les différentes technologie, elle est valable aussi et elle est importante à considérer. Donc, l'approche transversale, tenir compte d'interactions entre les différents niveaux de réalité impliqués, donc je rappelle le théâtre d'opération local, régional, national, et d'autre part, l'interrelation des acteurs sociaux de leur logique respective à une époque donnée. Donc, l'idée de la périodisation et de la contextualisation géographique, elle est relativement importante parce que ce qui signifie éventuellement une pratique émancipatoire dans un contexte donné à une époque donnée peut être complètement interprété différemment à une autre période. J'ai fait sourire des gens lorsque je leur disais que dans les faits, le service public de Radio-Canada a été vu à une certaine période comme une alternative importante dans le système canadien de communication. Oui, par rapport au système marchand qui était développé aux États-Unis. Et c'était vraiment une alternative, c'était une manière de résister à l'américanisation des ondes, disons, comme ça. Alors que maintenant, le système de radiodiffusion publique a une toute autre connotation. Mais cette connotation a été travaillée par l'histoire et la réalité de ce système-là a été travaillée par l'histoire et les contradictions entre les différents acteurs sociaux et les conflits ou les alliances qui ont pu naître tout au long de cette histoire. Donc, l'approche multidimensionnelle, évidemment, je le mentionnais tantôt, essayer de faire converger, conjuguer différents aspects économiques, juridico-politiques, culturels, technologiques, éthiques, et sans en être nécessairement des spécialistes, d'en avoir conscience et de pouvoir éventuellement en parler. Et enfin, l'approche, ce que j'ai appelé métamédiatique, parce qu'en transcendant les pratiques liées à des technologies médiatiques spécifiques, pour en dégager les logiques respectives des acteurs dans l'appropriation des technologies médiatiques dans leur ensemble. Et je crois finalement que c'est un peu le fétichisme de la nouveauté. En 85, je crois, 84-85, on avait fait un travail de recherche avec Gaëtan Tremblay. On avait bien démontré en fait que la déportation des chercheurs selon la nouveauté technologique et la nouveauté technologique cadrant finalement les différents financements pour la recherche. Alors donc, malheureusement, une déportation au fur et à mesure de la nouveauté technologique, on est passé d'un à l'autre et reproduisant d'une certaine manière les mêmes questions, le même questionnement et probablement peut-être les mêmes conclusions à certains égards. Donc, l'idée de rajouter ici l'idée du métamédiatique, c'est au-delà de la nouveauté technologique, mais aussi de comprendre que les technologies sont le résultat historique et que c'est travaillé par les rapports sociaux au final. Donc, je vais m'arrêter ici parce que je suis pas mal parlé jusqu'à maintenant. J'aimerais bien vous entendre sur mon intervention.
Merci beaucoup, Michel.
On coupe les coins comme ronds un peu. Hein.
Alors, Antonin, pour commencer, je voulais savoir si moi je soupçonne un fort lien entre Rio et Castoriadis. Vous ne connaissez pas du tout Rio. Mm-hmm. Beaucoup de ça, c'est sa pensée générale, etc. Il a très très bien. Ce qui m'embête un peu parce que je me demande comment je vais le mettre dans ma thèse maintenant, c'est trop de temps. Mais je voulais voir si, en fait, aussi, en 1916, s'il y avait historiquement, s'il y avait des lectures croisées de relations avec socialisme et barbarie en France, ou si c'était des émanations, je ne sais pas s'il y avait des
Non, je n'ai pas l'info là-dessus, mais ce serait un truc à fouiller. Mais il faut dire aussi que Rioux appartient finalement à un courant de réflexion critique sur le marxisme et que finalement, ça, étrangement, après coup, hein, c'est pour, quand on fait de l'histoire à un moment donné et comparatiste en plus, c'est qu'on se rend compte que même pour, je prends un exemple complètement différent sur les technologies. C'est absolument incroyable comment le développement technologique peut être, sans que des contextes soient reliés géographiquement, comment ça a pu évoluer de manière relativement similaire. Tout à coup, on développe des prototypes de télévision dans des pays avec des traditions de recherche complètement différentes et qui sont pas, il n'y a aucune porosité. Donc, c'est pour ça que finalement, c'est une manière de réfléchir à ta question, c'est-à-dire que au moment où on commence à réfléchir sur les catégories sociologiques abordées chez Marx et tout, au moment où on introduit la communication symbolique, comme pour reprendre l'expression de Rioux, et quand on commence à préoccuper de culture et tout, alors on se rend compte qu'on déclenche un processus de réflexion vraiment plus large et auquel d'autres auteurs peuvent être associés. Tu vois, il n'y a pas de lien entre Armand Matelard et Marcel Rioux, pourtant la réflexion sur la doxa marxiste de l'imposition, le dictat de l'infrastructure sur la superstructure, c'est une critique qui s'est généralisée parce que on a vu l'incapacité à analyser un certain nombre de réalités. Le social historique à travers ça, comme disait Rioux, est impossible hein, parce qu'il y a des pans complètement qu'on perd de vue parce que notre théorie ne les prend pas en compte du tout parce qu'elle n'a pas été faite par une préoccupation de ce réel-là. Donc, mais ça serait intéressant de nous voir. Mais il faut dire que la filiation, parce qu'il est né en 1919, donc son passage en France, c'est vraiment dans l'après-guerre, j'ai dit 56-58, non, c'est plutôt 46-48. Et c'est là que finalement, des gens comme Gurvitch.
Ça arrive entre 45
et 48. C'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, c'est probablement que l'après-guerre, de toute façon, et surtout la critique, oui, mais c'est aussi le réel socialisme, c'est-à-dire que finalement, la réelle politique qui rattrape ces gens-là, et que leur critique va venir du marxisme, vient aussi de la manière qu'on a utilisé la pensée marxiste dans la construction du réel, d'un réel. Pour faire court, hein, mais c'est un peu ça.
J'aurais une question. J'ai vu dans un des slides sur Marcel Rioux, où la prospérité, c'était d'identifier les pratiques émancipatoires. Mm-hmm. Et j'aimerais savoir si il identifie, c'est-à-dire, est-ce que c'est une position essentiellement théorique qu'il a d'identification, et est-ce que ça s'arrête là finalement, le potentiel critique de sa démarche, ou est-ce qu'il y a une forme d'intervention? Tu as parlé d'intervention.
Oui, mais en fait, c'est assez intéressant parce que, pour connaître un petit peu certaines actions de Rioux, Rioux développait un village, il voulait créer un nouveau village. Près de North Hackley dans les cantons de l'Est. Donc, c'est l'idée, finalement, quand on consacre il y a deux mots auxquels je faisais référence tantôt, il voulait avoir un Québec, évidemment, indépendant, donc un pays, mais égalitaire et autogéré. Ah, donc, on est, et c'est l'idée de l'égalité est essentielle, mais autogérée aussi. Tout le phénomène d'autogestion était dans les années 70, dans les années 60-70, a été très, très, très importante au Québec. Il y a eu beaucoup d'expériences, et les expériences ont été documentées, analysées, promues et tout. Et une des actions, en fait, de Marcel Rioux, ça aura été de créer cette revue qui existe encore, je pense, possible, parce qu'à moins que ça existe toujours, mais très épisodiquement, très difficilement, je crois, et c'est peut-être aussi avec l'air du temps. Donc, c'est
la revue n'existe plus, en tout cas en papier.
En papier, oui.
Il y a un an et demi.
Ah, ben c'est ça.
Mais je ne sais pas si notre prochain numéro sur les mouvements sociaux, c'est André Nouveau.
Ah oui. Donc, cette création d'une. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une revue qui est essentiellement critique, mais aussi qui pointe, qui, comme dit, cherche, valorise d'une certaine manière, met en valeur, mais ça ne veut pas dire nécessairement, comme on dit, d'ordonner le bon Dieu sans confession. C'est-à-dire que faut penser quand même, c'est que la critique elle est toujours là, présente. Et je crois que c'est une tradition qui a été conservée là-bas. Non, je ne sais pas, non, je ne pense pas. Mais il faut dire aussi que, ouais, mais il faut dire que de toute façon, cette période-là, c'est la période également des communes, hein, des années 60-70, Racine, par exemple. Il y a quand même, il y a des villages où les gens, c'est une sorte de retour à la terre, les gens ont réinvesti, et les villages qui avaient été abandonnés, par exemple, ils ont retrouvé... certains modèles de convivialité, si on peut dire, de vivre ensemble, très différents des structures de la ville, notamment. En fait, on recréait aussi l'esprit communautaire au sens québécois du terme. Mais en fait, c'était un... quelqu'un qui était très engagé et c'est intéressant en fait quand on regarde la création d'une revue comme possible. Vous voyez, les gens qui sont là, c'est des gens qui sont des littéraires pour la plupart. Il y a beaucoup de... Alors, la frontière entre finalement le monde de l'université, des trucs, et puis les autres, les littéraires, les créateurs, maintenant c'est de plus en plus cloisonné, ça. On assiste à ça.
Mais d'ailleurs, la revue, parce que j'avais participé à une réunion où il a été question la première fois de faire disparaître la revue papier, c'est parce qu'ils avaient une subvention du Conseil des arts du Canada, et que à partir du moment où le contenu exact de la revue ne correspondait plus exactement aux normes qui étaient nécessaires, et comme ils avaient un format très hybride en fait, entre. Analyse de type recherche et puis dimension essai, mais aussi dimension poésie.
Oui,
ils essayaient de combiner à la fois
création,
la création et puis l'analyse, on va dire. Oui. Ils ont été incapables de se retrouver dans une case de financement du Conseil des arts du Canada et ils ne pouvaient plus demander. Hein.
C'est une question qui a pas été. Je pensais tout à l'heure quand il y avait le débat sur l'interdisciplinarité, mais ça répond aussi au régime de financement. Ce qui est financé, ce n'est pas l'interdisciplinarité critique. Non, on touche là.
Mais déjà, cloisonner de cette manière, c'est déjà isolé. Et donc, de faire en sorte que les gens ne se mettent pas ensemble pour créer ou développer, être en rupture, etc.
Les gens en compétition, les uns contre les autres,
Mais je peux prendre un exemple qui est en dehors de l'université. Mais lorsque on a tenté, à une certaine époque, de rallier simplement les radios communautaires, les médias, les médias communautaires dans l'ensemble, mais ils sont par secteur. Hein. C'est la presse d'un côté, les télévisions de l'autre, les radios. Donc. Et lorsqu'on avait eu la velléité de rallier, faire converger ces différentes pratiques-là, les gens étaient très résistants, parce qu'ils voyaient que ça serait une nouvelle structure qui éventuellement pourrait aller gruger dans leur financement. Et on voit très bien que ça reste encore une forme corporative, corporatiste d'organisation, d'intérêt. Et ça, c'est un peu malheureux, parce que ce sont des fronts quand même qu'il faut unir si on veut éventuellement avoir un certain impact du point de vue du développement d'une approche critique de la communication, des médias et tout. Je pense que c'est un des médias alternatifs communautaires ont été de ces fronts-là, un peu comme l'éducation aux médias. Hein, c'est extrêmement important de penser à l'aspect éducatif, de la critique. Donc, ça, c'est, je pense que c'est la difficulté d'unir, de faire converger. Mais comme je disais tantôt, le mot convergence n'est pas nécessairement un mot, l'apanage essentiellement des affairistes. Hein, c'est aussi la possibilité de faire réunir et surtout de convergence, un effet aussi de solidarisation et de solidification de mouvement.
J'avais tout à l'heure avec France, on a été. En fait, j'étais interpellé sur l'intervention que j'ai faite au dernier séminaire où j'ai annoncé mon pessimisme. Et manifestement, ça a plombé quelques étudiants d'ailleurs qui m'en ont parlé dans l'ascenseur tout à l'heure. Et.
Quand tu as vu, j'ai mis l'arrière-plan de mon PowerPoint en vert pour te répondre de manière optimiste.
Ouais, étant daltonien,
oui, c'est ça, justement, c'est ça qui te rend pessimiste au fond.
Je ne vois pas le vert, c'est ça. Oui, j'aurais envie de. Parce que j'ai revenir indirectement à cette fameuse constatation que j'avais faite la dernière fois sur le pessimisme en fait, qui était lié au fait que j'avais l'impression, enfin, que mon analyse m'amenait à penser qu'il y avait plus de renforcement de l'exploitation et de la domination que d'émancipation. Mais c'est parce que, en fait, oui, je suis tout à fait d'accord sur l'intérêt de travailler à la fois sur la mise en évidence, non seulement en effet des rapports d'exploitation, de domination, mais aussi sur l'émancipation, sur la création d'un autre type de société, et pas seulement la critique de la société qui existe. Mais je dirais d'une part, et d'ailleurs Moscou, dans son livre de 96, est très intéressant, parce que, non pas dans son livre de 96, dans son texte, dans les actes du colloque 2001 Vogue en 2003 aux presses de l'Université Laval, Moscou, justement, met bien en avant l'idée que l'économie politique de la communication doit accorder de l'importance à tout ce qui permet de transformer la société. Mais il faut dire qu'à l'époque, on est en plein boom du mouvement intermondialiste. Donc, par exemple, il s'intéresse au mouvement intermondialiste et à la question de la communication en lien avec le mouvement intermondialiste. Je dirais parfois, c'est que c'est difficile de combiner tous les éléments, parce que déjà, en tout cas, si pendant un instant, et je suis entièrement d'accord avec, c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, j'ai dit que mon point de vue était celui de l'économie politique et de la sociologie critique, donc que je ne me limite pas au point de vue de l'économie politique. Mais d'un autre côté, on se rend compte, je vois chez des collègues qui se revendiquent de l'économie politique, point, qu'eux, ils vont répondre, oui, mais le travail est déjà immense pour mettre en avant l'existence même des notions d'exploitation, d'aliénation et de domination, ce n'est pas du tout quelque chose qui est évident. Même au sein de la sphère universitaire, je le répète, si je vais, je suis sûr que si je, veux, si je faisais une étude systématique auprès des collègues au sein de la faculté de communication et sans doute ailleurs aussi, il y en aurait très très peu qui se considéreraient d'ailleurs, ils m'écouteraient parler de l'exploitation, de l'aliénation et de domination, puis ils souriraient ou éventuellement ils traiteraient de. Comme j'ai dit toujours un collègue, lorsque j'ai parlé de capitalisme, il m'a dit mais il n'était pas en sociologie, tu es en communication, on ne parle pas de ça. Bon. Donc j'allais dire, le boulot est tellement important déjà de ce point de vue-là que je comprends que certains collègues disent bon, ben oui, moi je travaille sur les rapports de domination et d'exploitation, et puis j'essaie déjà de convaincre que ça existe, hein, parce que de toute façon, j'allais dire, si on prend l'exploitation et pas d'animation, ben, il n'y a pas besoin d'émancipation, hein, parce que tout le monde est a priori émancipé. Bon. Vision libérale de la société. Deuxième remarque et question, comment, alors ça c'est une question méthodologique, comment distinguer, deux questions méthodologiques. La première, comment distinguer quand on s'intéresse à des pratiques culturelles, à des pratiques sociales, comment distinguer ce qui peut contribuer à l'émergence de nouveaux modèles qui sont susceptibles éventuellement de se transformer et passer d'une échelle micro à une échelle macro. Comment est-ce qu'on met ça en évidence et comment on voit, parce que la plupart des travaux de recherche sont des travaux qui sont extrêmement précis dans le temps. Quelqu'un qui travaille par exemple sur des pratiques éventuellement à visée émancipatoire, disons à propos d'Internet, je trouve que c'est très à la mode. Mais c'est des études de terrain qui vont durer 6 mois, 1 an, alors qu'à mon avis, l'étude, voir si c'est une, si ça permet d'avoir des transformations et des visées émancipatoires en dehors de l'échelle purement locale, c'est peut-être sur 5, 10, 15, 20 ans. Comment on le fait en tant que chercheur, ça? Comment on essaye de. À partir du moment où. Les profs eux-mêmes demandent souvent à leurs étudiants de faire un terrain extrêmement précis, pour faire une étude de cas, puisque l'étude de cas est devenue très dominante. Il y a peut-être 90%, 95% des thèses en communication, c'est des études de cas. Bon. Comment tu vois ça? Ou comment Marcel Rio aurait répondu à ma méthodologie?
Ah, j'en sais rien. Ah. Mais en fait, je pourrais répondre à peut-être à ton. C'est-à-dire. D'une manière un peu sournoise à ta première préoccupation. Si on sait qu'il y a des rapports de domination, d'aliénation et tout ça, à quoi ça sert d'expliquer tout ça? Ah, non, mais non, est-ce que lorsque.
On ne sait pas.
On le sait pas.
Non,
mais c'est que
d'un. La plupart de mes étudiants, je me souviens, à chaque fois, par exemple, que je commence à parler de l'école de Francfort, la remarque de beaucoup d'étudiants, une grande majorité, c'est ils sont méchants, ces gens-là, ils en veulent contre l'humanité. Et oui. Donc ça veut dire que là, il y a un dévoilement qui est considérable à faire.
Non, mais c'est entre l'enseignement et la recherche, j'entends.
Ouais,
c'est-à-dire que.
C'est,
oui, c'est ça. Parce que dans les faits, je pense qu'il faut distinguer les deux. C'est-à-dire que dans l'enseignement, je pense qu'il y a un travail énorme. Et puis, si effectivement, moi, j'ai pris obligatoirement, je me suis obligé de prendre des gens. Qui m'ont influencé, parce que Rio et tout ça, quand je regarde mes travaux, c'est toujours un peu là. Alors, comme Delahaye, d'autres. Mais, oui, mais c'est des gens que j'ai lus en dehors des études en communication que j'ai faites ici. Alors donc, je ne sais pas si effectivement, dans l'histoire, Marcel Rio a été enseigné en communication. S'il y a un texte de Marcel Rioux qui a circulé en communication à une certaine époque, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, vous voyez, alors qu'il y a des préoccupations qui sont fondamentales dans le développement de la réflexion, les théories de la communication en économie politique ou ailleurs.
C'est moins la question d'enseignement. Je veux dire, quand tu dis ça, c'est pas la question. Moi, je me rends compte que si je veux avoir des textes que je trouve solides, mettons, au deuxième cycle, ben, souvent, je les prends dans d'autres disciplines de la com. Ou bien, je me dis, il faudrait que j'ai le temps d'en écrire un, puis de l'adapter à mes étudiants, parce que là, ils regardent ça, mais c'est la socio, ça. Vous voyez, mais on peut vraiment faire de tout ça, sans aller. Moi, je suis beaucoup Est-ce que tu es obligé de sortir de ton champ pour nourrir la, ouais. la pensée?
Je pose la question. Ça n'est pas toujours.
Non, mais oui, c'est bien parce que tu dis que tu proposes ça à d'autres choses que la communication, mais je me suis retrouvée avec l'inverse aussi des professeurs que tu écris quelque chose et qui te remettent, mais c'est pas des auteurs en communication. Et là, tu dis, oui, mais la communication, c'est pas juste les chercheurs en communication, s'il y a d'autres gens qui ont contribué aux communications, parce que j'ai vécu un peu l'autre côté.
Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Il y a dans un bouquin d'entretien que j'ai fait avec Matelard, là, on parle à un moment donné de l'enseignement à la communication. Et pour lui, en fait, il préconise les études de base, comme à la licence, dans un champ disciplinaire, et ensuite passer en communication. Donc, avoir fait la sociopolitique, les socio Sciences Po, faire de l'économie, etc. Non, mais je pense qu'il l'a. Non, mais en fait, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens quand même, que ce soit à Paris-8 ou à Rennes où il enseignait, les gens venaient. Il n'y avait pas de filière communication. Donc, à partir de ce moment-là, les gens devaient faire. Des études comme entre guillemets préparatoires au master ou à la maîtrise dans d'autres champs. Et à ce moment-là, au moins, les gens abordaient la communication pas comme une manière autonome, là, comme disait Oumar tantôt. Il n'y avait pas d'anthropomorphisme de la communication. Hein. La communication, c'est comme un être vivant, tu sais, qui a une personnalité propre, etc. Alors, c'est assez particulier, parfois, quand on parle de communication de manière à ce qu'elle soit isolée du reste du social, en lévitation par rapport aux rapports sociaux, rapports de force, etc. Donc, tu parlais si bien tantôt. Donc, ça permet d'avoir une sorte d'ancrage disciplinaire, conceptuel, notionnel, évidemment, théorique, c'est déjà un point de vue de départ.
Il y a aussi des considérations. Alors, Matelard a certainement passé des considérations là. Moi, quand j'étais professeur à Ottawa, à l'université, je suis arrivé en 2002 et je me souviens, le département venait de passer dans les trois premiers départements à l'université, toutes disciplines confondues, en nombre d'étudiants. Et le nombre d'étudiants était passé au-dessus de 1000. À ce moment-là, au premier cycle. Et c'est évident que il n'y avait même pas de maîtrise de doctorat à ce moment-là. Alors, ils ont développé la maîtrise, en fait, on a développé la maîtrise quand je suis arrivé, et puis maintenant, il y a un projet de développement de doctorat. Mais en fait, ce n'est pas les étudiants de maîtrise, les étudiants de doctorat qui font le nombre, hein, c'est les étudiants de premier cycle. Donc, je verrais mal, par exemple, un collègue, alors c'est un petit peu différent ici, à la faculté de communication, parce qu'on a beaucoup de programmes qui sont contingentés, parce qu'on a beaucoup de programmes professionnalisants. Mais je ne vois pas très bien comment, aujourd'hui, si j'étais toujours professeur à l'Université d'Ottawa, j'aurais beaucoup de mal, et puis même ici, hein, j'aurais du mal à tenir le discours, alors que je suis plutôt, moi je pense, au point de vue personnel, qu'il n'y a pas lieu de faire d'études en communication dans mes sites. Parce que je pense en effet que, d'ailleurs, les meilleurs étudiants généralement que j'ai eus, et c'était très frappant à Ottawa, parce qu'il y avait beaucoup plus ici des échanges entre disciplines. Donc j'avais beaucoup d'étudiants dans mes cours qui venaient d'autres disciplines. Et je trouvais très souvent à Ottawa, en tout cas, que les étudiants qui venaient d'autres disciplines, de sociologie, histoire, d'anthropologie, de géographie, avaient par exemple des bases pour pouvoir intégrer et faire sens de ce que je leur disais, avaient des bases bien plus solides que les étudiants qui étaient étudiants en communication. Mais un prof qui dirait ça, Matelard aurait été prof à Ottawa et aurait tenu ce discours-là, on lui aurait dit mais attends, t'es en train de scier la branche sur laquelle t'es assis. Hein, parce que qui dit hein, augmentation du nombre d'étudiants dit augmentation du nombre de profs, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est le bac qui fait vivre, pas les études supérieures. Donc c'est bien facile, je trouve ça, d'un Certainement, c'est très facile de dire oui, je suis contre, mais.
Mais c'est là qui est intéressant de voir le contexte dans lequel on peut dire ça et qu'on peut orienter. C'est-à-dire qu'au moment où on est dans un système français, les contingences sont très différentes de celles qu'on retrouve ici en termes de financement, comme le nombre d'étudiants que nous attirons dans telle discipline, c'est le financement que nous aurons par l'université pour cette discipline-là. Parce qu'on est payé selon le nombre de ETC qu'on reporte. Donc, c'est les subventions, pas seulement les, il n'y a pas seulement les frais de scolarité, mais c'est combien pour chaque étudiant ou étudiante l'université va recevoir en financement public. Et c'est comme ça. Et on peut penser s'agrandir, grossir, se développer comme département ou faculté en ayant justement cette masse critique d'étudiants qui va amener une masse critique de financement. Et d'ailleurs, vous voyez, chaque nouveau programme qu'on veut développer éventuellement, on aura besoin de ressources. Et ce qu'on fait, maintenant le mot est clair, des études de marché. C'est comme ça qu'on appelle. C'est même pas une analyse ou une étude exploratoire des besoins de la société, etc. Non, c'est ça s'appelle étude de marché. Ça rejoint ce que tu disais tantôt. Les étudiants sont. On a créé un monstre qui s'appelle l'étudiant client. Et puis après, on se surprend que l'étudiant réplique ou réplique comme un client. C'est assez particulier. Là. Entendez-vous? Et c'est ça.
Alors, c'est vrai que c'est pour revenir à ton commentaire que tu peux avoir des profs de com aussi qui ne sont pas contents parce qu'ils voudraient que tu cites des auteurs en com. Parce que ça fait partie aussi de leur développement professionnel. On est désolé de ce qu'il y a derrière un programme. Quand on a des étudiants, on a beaucoup d'illusions là-dessus. Mais il y a aussi ça. Il y a, c'est vrai que moi, je me souviens que le premier travail que j'avais soumis à Gaëtan, elle était demandé des mots de fête. La première fois qu'il m'avait eu, il m'avait dit pas contente, je pense que j'ai aucun auteur ici au Québec, mon emploi là. Mon travail n'est pas là. Moi, je n'avais pas pensé à ça du tout. Maintenant, je sais que. Si tu présentes quelque chose à quelqu'un ou à un collègue, tu as intérêt à citer, mais je n'avais pas ces habitudes-là. Encore, je n'ai pas pensé à, dans mon texte à citer celui que je voulais avoir comme directeur. Tu sais, je trouve ça drôle, mais tu vois, ça fait partie aussi du cycle de reproduction dont on ne parle jamais, mais dans lequel on est vraiment pris aussi une fois dans les trois.
Oui, il y aurait une économie politique à faire ou une sociologie critique à faire. Du développement des programmes en communication, puis comment ça s'est articulé. De tous les programmes, mais disons, pour notre sphère à nous, déjà, on peut penser que si...
Les étudiants dans notre production, on sert à légitimer un programme. Tu sais, ça veut dire à légitimer concrètement aussi les postes de prof, des ressources. C'est pour ça que quand Éric dit, moi je trouve qu'au premier cycle, les comme c'était pas évident, mais en même temps, c'est les étudiants du premier cycle qui sont venus. On est pris dans d'autres compétitions. Mais
je me souviens pas comme ça, mais c'est des philosophes, des littéraires, parce que je viens du bâtiment de donc, c'est un peu spécial parce que je me suis vraiment retrouvée entre deux chaises. Parce que quand j'ai annoncé à mes professeurs que je venais en communication, ça aussi, c'était comme ah oui, tu fais en communication. Et d'un côté, quand tu dis que tu es en littérature, ben là, ça explique pourquoi tu utilises ces auteurs-là. Donc là, ça légitime, mais en même temps, pas vraiment. C'est comme si tu devrais exploiter plus la communication maintenant que tu fais partie comme de notre groupe. T'sais.
Que
t'intégrer. Mais pour moi, ça allait de soi que les auteurs de questions, même en littérature, je n'utilisais pas seulement les auteurs en littérature, mais les auteurs qui venaient d'ailleurs. La littérature, c'est l'histoire, c'est la société, c'est la communication, c'est tout. Tu sais. Mais c'est au même titre que la communication, tu ne peux pas te détacher. Puis c'est pour ça que je me sentais touchée parce que la présentation que j'ai faite, parce que je me retrouve un peu dans cette chaise-là où tu es entre les deux et à un moment donné, il faut que tu arrives à un moment où les gens posent à faire un choix, il faut que tu choisisses c'est quoi comment. Mais en même temps, c'est comme dans les lycées,
c'est ce intéressant, c'est ça peut-être. Je pense que moi, je suis en com plutôt en chose parce que j'avais l'impression que j'allais avoir accès à plusieurs disciplines et qu'on allait me laisser tranquille en com.
Je pense aussi la même chose.
Mais il faut se battre, il faut se battre. C'est vraiment.
Alors, je vais en profiter. C'est Jessica Mercier qui travaille avec nous, Jessica, maintenant, qui vient de prendre la parole. Et nous avons deux interventions.
Oui, moi, je suis Nancy Bouchard. Je suis professeure titulaire ici à l'UQAM. Je dirige le groupe de recherche en éducation éthique et éthique en éducation. Et puis, quand j'ai vu sur quoi travailler, ben, j'ai vu le projet de M. Georges, projet de recherche. Et puis, je suis venue parce que l'idée de. Que l'après-midi traitait la pensée critique m'intéressait énormément. Parce que je me disais, en communication, on va beaucoup s'intéresser à l'agir communicationnel. Donc, quand j'ai vu à Bernard au début, bon, j'avais comme mes références, si je peux dire, entre autres, une de mes références. Mais je me disais aussi, en écoutant les deux présentations, est-ce que dans le fond, il n'y avait pas nécessité de. Dans le fond, d'une pensée post-critique, c'est de l'agir communicationnel post-critique. Dans le fond, lorsque j'entends dans vos communications qui sont différentes, mais en même temps qui sont complémentaires, on ne pourrait pas aller vers une pensée critique dialogique, dans le fond, qui irait plus loin, qui n'irait pas les autres types de pensée critique, dont la pensée dialectique, mais qui les intégrerait et qui les animerait. De façon à penser vraiment une éthique dialogique post-critique.
En fait, le mot dialogique est très souvent associé à dialectique, étrangement, mais en tout en faisant certaines distinctions. Mais il y a une chose qui m'apparaît évidente, c'est-à-dire qu'on veut toujours renommer quelque chose, on est toujours dans le poste quelque chose, on veut toujours se distinguer, puis ça c'est assez particulier, c'est de vouloir, alors que finalement la pensée dialectique, elle existe depuis toujours, si on peut dire, on remonte à l'Antiquité, et finalement je parlais avec Kevin Wilson, qui est un de mes collègues, elle disait que l'action, en fait, il est en train de lire Marc Aurèle, et en fait, ce qu'il découvre avec un auteur qui s'appelle Ardo, quelque chose comme ça, disait que l'action, en fait, pour ces gens-là, c'est pas la théorie vient pas en premier, c'est que l'action c'est l'action qui amène à réfléchir. Et l'action est built in, comme il disait, est construite à l'intérieur même de la réflexion. Elle est built in. Alors, c'est intéressant parce que, bon, c'est donc cette idée de cette dialectique entre théorie et action, en théorie pratique, ce qu'on souvent appelait le mot praxis, qui est comme une sorte de synthèse de ça. Existe depuis toujours, si on peut dire. La seule chose, c'est comment on leur a donné des interprétations différentes. Et d'ailleurs, le mot dialectique, il faut toujours le prendre en pincette, avec des pincettes, parce que ça veut tellement dire dans la tête des gens, tellement d'associations, de connotations, etc., qu'on est obligé, effectivement, des fois, de revenir puis de dire, bon, on va faire quelque chose autre pour nommer ce qui est déjà nommé et auquel on se référait. Comprenez? Parce que l'approche dialogique, je ne sais pas jusqu'à quel point elle n'est pas constitutive ou consubstantielle à l'approche dialectique.
J'en reviens, par exemple, chez Jean-Marc Ferry, où on va avoir des éthiques narratives, on va avoir des éthiques substantielles de l'humain, des éthiques procédurales, mais dans le fond, dans la façon d'intégrer, vous avez parlé de frais et valeurs, et vous avez parlé aussi de normes, le rapport entre frais et valeurs et normes. Dans la communication au sein de la, les différents groupes sociaux au sein d'un projet commun émancipatoire, doit repenser les relations entre ces différents éléments. Et c'est ça qui serait à penser, peut-être plus que la terminologie. Et c'est là que je situerais la question dialogique.
Ah, okay,
donc, le dialogue entre ces différents éléments-là, comment il doit se construire, comment il doit se penser. La dialectique peut être une idée, façon de commencer, mais il me semble qu'il y a d'autres types d'agir communicationnel qui doivent se... On parle d'interdisciplinarité, mais je dirais aussi une diversité sur le plan des types de communication à mettre en place et de la façon surtout qu'il faut qu'ils soient pensés peut-être de façon différente, c'est la façon de les penser ensemble.
Non, c'est plus sur le processus que vous...
La façon de les considérer dans la dialectique, c'est différent que d'essayer de comprendre. Quand je vais me situer dans une argumentation, ça va être très différent que d'essayer de comprendre dans l'approche sociologique. Critique, on réintroduit la dimension compréhension. Alors, le rapport au groupe, aux collectivités devient très différent, même par rapport à sa propre socialité, dans le sens où...
Oui, parce qu'en fait, il y a Thomas Paine, qui est un père fondateur de la Constitution américaine, si on peut dire, qui était à cheval sur deux révolutions, qui est anglais lui-même, et qui, justement, insistait sur la capacité d'intervenir dans le débat public, en fait, en autant qu'on ait les moyens de le faire. En moins de le faire. Et ça rejoint, en fait, ce processus où les conditions objectives de pouvoir formuler et de diffuser un point de vue, ça remonte très loin. C'est-à-dire que la base même du débat, c'est le dialogue, la capacité d'émettre un avis dans dans ce sens-là. L'agir communicationnel est assez proche, c'est-à-dire est-ce qu'on a la capacité, Normand Landry qui était là, les ressources cognitives pour le faire, mais je rajouterais aussi, est-ce qu'on a les ressources matérielles, les moyens de production, hein? Parce que entre, par exemple, l'idée d'énoncer un droit comme celui de la liberté d'expression, alors que finalement, c'est aucunement assujetti à la capacité réelle d'avoir les moyens de production de cette expression-là. Donc, ça rejoint un petit peu, dans un autre ordre d'idée, cette idée du dialogue, oui, mais quels sont les fondements, la matérialité de l'accessibilité réelle à ce dialogue et à sa capacité de rentrer en dialogue, ce qui n'est pas tout à fait évident.
Non, parce qu'entre dialogue et débat, c'est deux choses différentes.
Oui, oui.
Puis les communautés de chercheurs, entre autres, ce que j'essaie de mettre en place dans les colloques annuels que l'on fait, locaux, au Québec, c'est d'essayer d'instituer une façon de faire que ce n'est pas juste des présentations, qu'il y a vraiment une place pour une communauté de recherche à l'intérieur même des colloques que l'on fait. Et c'est extrêmement difficile. On fait des petits pas. On s'inspire entre autres des discussions à visée philosophique, de différentes approches, et on veut parvenir à justement mettre en place un dialogue entre chercheurs qui n'est pas juste. Parce que souvent, les colloques, si tu vas faire ta présentation en 10 minutes, tu as des questions en 10 minutes, puis chacun s'en va, retourne dans ses terres. Alors, il peut y avoir un petit peu de débat, mais. Je trouve ici, mais je trouve ça intéressant aussi la formule, parce que c'est ça, un échange plus intéressant que strictement du point de vue du débat, c'est un début de dialogue.
Il y a une pratique qui est pas mal en sciences politiques, mais j'avais essayé d'en parler à quelques collègues il y a quelques années, qui m'avaient dit « Ah, là, non, surtout pas ». C'est la pratique des discutants, en fait. Hein, alors, c'est un embryon, hein, mais c'est quelque chose qui est pas mal. Je trouve, par exemple, sur une table ronde, il y a trois personnes qui interviennent, et puis il y a quelqu'un qui a obtenu les textes des trois personnes, et qui va commenter les textes des trois personnes, et qui fait une espèce d'introduction au débat, mais qui ouvre déjà vers un rapport extérieur à la connaissance, et je me souviens en avoir parlé, mais il y a déjà pas mal d'années, et je ne dirai pas à qui, je me souviens plus en revanche, mais tous les collègues m'avaient dit « Ah, Eric, certainement pas, je n'ai pas le temps, par exemple, mais c'est ne serait-ce que des considérations comme ça. Sinon, c'est sûr, je n'ai pas le temps d'envoyer mon texte 2 semaines avant, le texte il sera bouclé 1 heure avant le début du colloque. Et donc, cette pratique qui est assez instituée, je pense à la fois au Québec et en France, en sciences politiques, elle n'a pas du tout, pour des raisons X ou Y, elle n'a pas du tout migré vers d'autres... En philosophie,
ça existait.
En philosophie,
aussi. Il y a la chaire de philo des droits de l'homme. La chaire de l'ESCO, il y avait ça. Puis moi, l'année passée, dans mes étudiants de maîtrise, un colloque étudiant, où c'était ça, comme les étudiants participaient pas, parce qu'on l'avait su tardivement, on était allé jusqu'au bout. Mais les étudiants, puis c'était pas un Canadien, ils sont organisés par l'Université Laval, puis Béline. Et les étudiants qui soumettaient une présentation devaient l'avoir envoyée assez longuement à l'avance, parce que chaque étudiant devait soumettre et puis préparer ses commentaires à une autre présentation. Je disais, ça, c'était double. C'était vraiment riche, parce que faire ta présentation tout seul, puis c'est vrai, penser qu'après tu t'en vas, tu peux avoir une question un peu plus difficile, mais après ça, c'est fini. Mais dire que tu as aussi à faire un commentaire solide là, sur la présentation de quelqu'un d'autre. Première fois, je voyais ça.
Oui, mais tu vois, on peut le demander aux étudiants, mais est-ce qu'on peut le demander à des collègues?
Mais il y avait des collègues d'organisation aussi, mais là, c'est la question
de... Mais il y a des gens qui ont en place, là.
Mais la problématique qui est soulevée ici est à rejoindre essentiellement ce que tu disais tantôt, France, que c'est un mode de reproduction. Hein? On n'est pas dans le mode de création, si je prendrais le terme de Rioux. On n'est pas dans la création à travers le dialogue, etc., de quelque chose de nouveau, que cette interface. Alors que, par exemple, les colloques, comme vous dites, on est plutôt dans un modèle de masse quasiment. T'sais. On arrive, on présente le truc, quelques questions, puis ensuite on change de chaîne, en fait. C'est quasiment une programmation satellite avec des multicadeaux, on passe d'un à l'autre. Alors qu'il y a des modèles complètement à l'opposé, où finalement ce sont des ateliers de recherche, c'est-à-dire et des gens doivent envoyer leur texte auparavant, l'ensemble des intervenants doivent avoir, comme aujourd'hui, auraient lu, et finalement les gens vont travailler ensemble pendant 2-3 jours sur les textes avec des interactions et tout. Donc, moi, je l'ai vu parce qu'il y a des gens qui, dans certaines associations, il y a des gens qui travaillent de cette manière-là. Et c'est étrangement, savez-vous ce que c'est? C'est dans les domaines de la gestion, des domaines très, très pointus où les gens vont travailler sur des questions, mais reliées à la production d'un texte discuté par l'ensemble. Et ça se passe pendant... Et surtout, l'objectif étant, à la fin, d'avoir une production sous forme de livre, par exemple. Donc, c'est que les textes... Oui, ça se fait dans d'autres domaines, mais c'est parce que...
Oui.
Oui. Mais c'est qu'en fait, on voit le balancier d'un l'autre, tu sais, un peu l'événement de masse, entre guillemets, et là, le vraiment le club un peu select, là, où c'est ça, c'est ça.
J'explique les conférences, quand on forme des étudiants, des étudiants scientifiques, je leur présente ça, puis leur montre selon la nombre où ils sont rendus dans la carrière, quel type de présentation, quel type de fusion, avec la classe qui est pratiquement ouverte. Il y a comme des élections, mais quand même assez ouvert. Jusqu'au séminaire fermé, c'est ça, comme tu dis, c'est beaucoup plus long, les présentations, les gens de connaissance, des textes avant, on doit réagir, puis c'est dans le c'est comme une première version qui est discutée.
Oui, mais c'est exigeant, mais les gens s'y prêtent quand même, parce qu'il y a une gratification.
Mais on essaie même d'aller plus loin, je ne sais pas que jusqu'où on va se rendre, mais de faire en sorte que les gens qui forment une communauté de recherche aillent plus loin que j'arrive avec, bon, j'ai lu ça, j'arrive avec ma question, ouais. Vraiment de faire progresser dans la communication, vraiment d'apprendre à écouter qui vient d'être dit et de voir en quoi ce qui vient d'être dit vient de faire évoluer. Puis qu'il y a vraiment un processus, un dialogue qui s'engage entre les chercheurs. Ce qui fait que quand tu entres, t'es pas pareil que lorsque tu sors. Il y a quelque chose de plus qui vient de se produire dans ta réflexion, dans la communication. Je ne sais pas où on va pouvoir se rendre avec ça, mais je me j'avais cette curiosité-là maintenant dans une faculté de communication sur ce plan-là aussi. Il me semble que ça répondrait à toute la question d'interdisciplinarité. C'est vraiment une dimension interculturelle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous, dans les exemples que vous avez donnés sur la, comment vous définissiez la culture. Quand on parle d'interculturel sur le plan interdisciplinaire, on est dans l'interculturel. Alors, comment cette dimension interculturelle-là, que ce soit sur le plan des fondements, de la méthode, de la discipline, comment on peut en arriver à un dialogue? Un dialogue.
Oui.
Il y a peut-être les travaux de Axel Monnet.
Oui.
Qui parle finalement de Gadamer et de Habermas. Pensant le dialogue avec un concept central, c'est de
reconnaissance.
C'est relativement proche de la forme d'éthique de la communication. Je pense à ce philosophe français d'origine juive qui a beaucoup travaillé sur l'expérience. Il a travaillé en phénoménologie, comment il s'appelle, sur la figure de l'autrui. Exact. Lévinas aussi également, peut-être serait.
Jean-Marc Ferré aussi. Sur la reconnaissance de l'autre et l'essence de l'expérience. C'est ce qu'il fait sur l'agir comme une personne. Il va se situer à Habermas, il va dépasser cette éthique argumentative qu'on a vu, une éthique reconstructive qui va intégrer les différents modes dialogiques finalement qui sont apparus au cours de l'histoire et qui aujourd'hui, pour vraiment une reconnaissance de l'autre, il faut dépasser cette argumentation, ce débat. Il faut pas l'ignorer.
Courant de recherche très, très important auquel un certain nombre d'entre nous se sont déjà intéressés. Alors, la question à ce moment-là, ce serait, puisque vous êtes ici, on est dans le cadre de réflexion dans un séminaire critique. Alors, Habermas, c'est ça l'intérêt d'Habermas, c'est qu'il était dans l'école de Francfort, deuxième génération, mais tout son travail sur l'agir communicationnel finalement, et une forme de subversion très importante qu'il a absolument assumée par rapport à la première école de Francfort, en disant que dans la communication, finalement, il y a des germes d'émancipation extrêmement importants. Alors ça, c'est analyser le phénomène communiqué. C'est peut-être ça qui vous intéresse davantage, mais quand on le conceptualise de cette manière, le potentiel critique pour le reconstruire, pour le rendre manifeste, c'est beaucoup plus compliqué. En d'autres termes, pour des raisons de simplicité, pour nous autres, pour moi en particulier, c'est beaucoup plus commode, d'accord, d'aller chercher dans la première école de Francfort plutôt que dans la Habermas de l'échelle communicationnelle. Même si les communications, je l'ai dit en plus dans ma présentation, c'est cet aspect dialogique, l'agir communicationnel, l'espace public pour ça s'est développé en relation avec le développement de l'économie de marché, la société bourgeoise, le fait que un certain nombre de membres de la bourgeoisie, parce qu'il y a une économie de marché, parce qu'ils ont le temps et les moyens de se consacrer à des loisirs, vont développer des pratiques de lecture en, justement pour finalement développer un esprit critique très important. Donc il y a cet aspect dialectique. Mais quand on s'intéresse à l'intersubjectivité, à la reconnaissance, à l'éthique de la communication, pour articuler ça avec un potentiel critique qui finalement nous réunit aujourd'hui, c'est peut-être le problème. Et je comprends très bien votre inconfort par rapport à ce manque-là, mais c'est peut-être lié au format de notre discussion.
Non, je pense que c'est
comment ça opposer le fait d'argumenter pour la reconnaissance? Quand on argumente, c'est parce qu'on se reconnaît mutuellement comme des interlocuteurs légitimes, hein?
Non, c'est pas dans le sens de s'opposer. C'est que, bon, si je donne l'exemple, du port des signes religieux en France, il y a des groupes musulmans qui se sont sentis directement visés par ces lois-là. Alors, qui ont été députés il y a quand même une dizaine d'années. Hein. Et puis, si on avait peut-être, on a argumenté pour déterminer quels seraient les devoirs faire pour les citoyens français. Et puis, on n'a pas donné la chance aux populations qui pouvaient se sentir meurtries par une décision de pouvoir manifester, de pouvoir être écoutés dans comment eux, ils ont à vivre avec la mort. Et, chez Jean-Marc Ferry, par exemple, et chez SNL, ça va être important d'avoir à écouter comment les personnes ont à vivre avec la mort. Ça peut mener à une modification de la loi, mais ça peut aussi mener à mettre en évidence d'autres types d'injustices qui font en sorte que ces personnes se sentent marquées par ces décisions, ces lois-là. Et donc, ça peut amener à d'autres mesures, comme par exemple, lorsque la première loi est passée l'interdiction de signes ostentatoires, de signes religieux ostentatoires, est passée il y a peut-être une dizaine d'années, je ne me souviens plus l'année exacte. À ce moment-là, si on avait écouté certaines populations musulmanes en France, on aurait compris que c'était comme la goutte de trop, dans le sens où on venait dans les banlieues de couper toutes sortes de mesures, toutes sortes de mesures sociales, d'accès aux institutions communautaires, au gymnase, à la piscine publique, toutes ces institutions-là qu'on avait retirées. Alors, avec la loi sur les signes ostentatoires, c'est comme venu, la goutte d'eau de trop, finalement. Ben, c'est une interprétation que je fais, mais dans le sens où peut-être qu'on aurait eu intérêt à, par la suite, une fois que la décision a été prise, d'écouter ces populations-là pour essayer de voir pourquoi vivre avec cette norme venait amener un trop plein à une partie de la population. Fait que c'est dans ce sens-là, c'est comme dépasser l'argumentation pour revenir à, une fois qu'on a pris des décisions, être capable d'écouter des populations.
Moi, je comprends ça plus, parce que moi, je connais plus avec Avermas les principes d'éthique à la discussion. Comment on fait pour orienter les différents concernés.
Mais c'est comme une étape, mais par la suite, c'est que dans cette étape de la discussion-là, on est prêt à entendre des arguments hauts, mais ce qu'on recherche, c'est des arguments, et ce n'est pas les histoires des personnes. C'est une étape procédurale de la société juste qui ne va pas, qui met un peu, qui ne va pas jusqu'au voile d'ignorance de John House, mais qui donne la place aux concernés, mais pas pour leur histoire personnelle. Des groupes, des histoires de groupes. Alors, comment réintroduire, dans le fond, la question du pluralisme sans relativisme dans l'éthique de la reconnaissance, comme une façon de. Une proposition qui est faite dans ce sens-là qui peut être critiquée, donc je vais juste la présenter.
On va peut-être conclure, parce que j'avais encore une question.
Non, j'y avais pas. En fait, un commentaire que peut-être mon maire a terminé la session. Moi, je suis Free Evan Mudd, je suis une docteur en communication de l'UQAM. Ça me semble qu'on parle de deux choses différentes, mais qui sont fortement connectées. Une fois, on parle d'une approche critique à la communication, là, comme champ. Mais en même temps, on parle d'une certaine manque de cette disciplinarité dans cette chance-ci, que est un tel interdisciplinaire comme champ. On peut parler aussi d'un manque de solidarité entre des mini-champs ou des concentrations dans le champ de communication. Quand on a de spécialistes en politique, économie politique de communication qui travaillent que sur la politique économie politique. Et alors, on a toutes toutes ces côtés qui luttent contre chacun. Donc, on a des compétitions entre des champs, mais en même temps, on parle de même le propre département de communication, en faculté, et des compétitions dans cette science-ci, une certaine manque de solidarité entre chercheurs, entre les individus qui travaillent dans cette science. Et que ce soit ces deux conversations, faisaient partie de toute cette série de séminaires. Mais je pense que ça va être deux sets de thématiques qui vont suivre dans l'année. Parce que c'est donc deux trucs qui est, je pense, prend beaucoup d'espace dans cette salle aujourd'hui, mais dans le petit actuel dans le domaine. Et à Lucas même.
Mais on peut aussi considérer, on pourrait considérer, en fait, j'ai une collègue, quand je suis arrivé à Ottawa, j'ai une collègue qui m'a dit, l'économie politique de la communication, ça n'est qu'une branche toute petite de l'économie politique beaucoup plus globale. Mmh. Et elle avait, par exemple, une approche de l'économie politique qu'on pouvait appliquer absolument tous les champs de recherche. Les relations hommes-femmes peuvent être appréhendées à partir de l'économie politique. Bon. Et donc, pour elle, l'économie politique elle-même est fondamentalement interdisciplinaire. Mmh. En n'oubliant pas, en effet, les relations complexes entre infrastructure et superstructure, et non pas la domination unilatérale de la superstructure par l'infrastructure. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on arrête symboliquement, il est 17h. Est-ce qu'on arrête là? Michel, encore merci.
Merci à vous.